Bonsoir et bienvenue aux habitants d'Ekalemie dans cette salle du KGL pour participer à cette spéciale émission Dialogue entre Congolais. La province de Tanganyika, comme on le sait, est l'une des 26 provinces de la RDC. L'actualité de cette province a été depuis plusieurs années dominée par l'insécurité causée par l'activisme des groupes armés. Les miliciens Twa, Bantou, appelés éléments, les Maïmaï du chef milicien appelé Liwa, continuent d'y semer la mort. Cependant, si on a beaucoup parlé de Tanganyika en termes d'insécurité, même si la paix n'est pas totalement revenue, aujourd'hui on en parle aussi grâce à ses ressources naturelles. En plus d'être une province à vocation agricole, son sous-sol regorge aussi certains minerais dits stratégiques tels que le cobalt et le lithium, nécessaires à la fabrication des batteries électriques. L'émission de ce soir va porter donc sur la situation sécuritaire et socio-économique de la province de Tanganyika. Qu'est-ce qui explique la persistance de l'insécurité dans certaines contrées de la province de Tanganyika? Quelles pistes de solutions pour y mettre fin? Quid de l'exploitation agricole et minière dans cette province? Que faut-il pour que les ressources de Tanganyika contribuent effectivement au développement de cette province? C'est l'objet de cette spéciale émission Dialogue entre Congolais sur la province de Tanganyika, émission qui s'est produite dans la ville de Kalemie avec la participation de la population de Kalemie. Est-ce que Kalemie est présent ici? Est-ce que vous êtes là? Nous avons également la participation de M. Christian Djangambi Abongo. Il est chef de division provinciale du budget Tanganyika. Bonsoir M. Christian Djangambi Abongo.
De la radio au Kati.
Jules Moulia, il est président de la Fédération des entreprises du Congo FEC Tanganyika. Bonsoir M. Jules Moulia.
Bonsoir M. Guy Bassé, c'est un plaisir d'être ici et bonsoir aux éditeurs du Tanganyika.
Ludovic Kasongo Kitengeya, il est coordinateur provincial de la Barza intercommunautaire de Tanganyika. Bonjour Monsieur Ludovic Kasongo Kitengeya.
Merci Guy Maté, bonjour à vous aussi.
Et Nathan Mugisho, président provincial du mouvement citoyen Parlement debout sans tabou du Tanganyika. Bonsoir Nathan Mugisho.
Bonsoir messieurs les journalistes, je salue également les co-débatteurs et tous les auditeurs de la radio Capi qui vont nous suivre de partout dans le monde.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous allons commencer par la situation sécuritaire de la province de Tanganyika. Monsieur Christian Djangambi Abongo, chef de division provinciale du budget Tanganyika, c'est vrai que vous n'avez pas été délégué par le gouvernement pour parler de ce genre de questions, mais lorsque vous voyez que vous entendez ce qui se passe dans certaines contrées, comment vous expliquez la persistance de l'insécurité dans cette province de Tanganyika?
Merci beaucoup Guy Maté pour m'avoir donné la parole. Je pense que cette résurgence est due au chômage. Ça, c'est mon impression. Lorsque les jeunes ne sont pas occupés, ils s'adonnent à des activités qui peuvent leur apporter l'argent rapidement et ils pensent qu'en faisant cela, ils peuvent résoudre leurs problèmes. Je pense que dans cette perspective-là, le gouvernement provincial doit s'atteler à occuper la jeunesse pour que la jeunesse ne puisse plus se donner à ce genre d'activités qui, du reste, est en train de ternir l'image de la province et de restreindre l'assiette fiscale. Donc, avec ces mouvements, je pense que le gouvernement provincial aura difficile à réaliser tout ce qu'il a promis à la même population.
À une certaine époque, on parlait de la reddition de beaucoup de miliciens. Qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Bon, avec l'appui de la MONUSCO et des concerts avec le gouvernement provincial, il y avait des actions qui ont été menées pour les recadrer et de les recycler dans les travaux d'agriculture. Et c'est ce que si vous allez dans la plupart de la périphérie de la ville de Kalemie, vous trouverez que ces jeunes-là ont commencé à se donner aux travaux des champs. Mais quelque part, il y a eu, je sais pas moi, qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a qui sont rentrés dans ces mouvements-là parce qu'ils ont trouvé que l'agriculture, ça traînait un peu trop. Alors que ces mouvements insurrectionnels, ces mouvements de banditisme étaient un peu plus payants. Mais en tout cas, je pense que le gouvernement provincial s'attelle à les recadrer de nouveau pour les remettre dans les travaux des champs. ce qui est plus rentable.
Merci, merci, Monsieur Ludovic Kasongo Kitengeya. Vous êtes coordinateur provincial de la Barza intercommunautaire de Tanganyika. À part la pauvreté qui a été évoquée par M. Christian, qu'est-ce qui peut encore expliquer, quels sont les autres facteurs qui peuvent expliquer la persistance de l'insécurité dans certaines contrées de la province de Tanganyika?
D'abord, avant de parler de l'insécurité, nous devons connaître les causes qui ont fait que cette insécurité s'installe. Je pense que les conflits bantous, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce conflit qui a amené, qui est de l'insécurité, qui est des problèmes socio-économiques. Ni t'était ça, on n'en parlerait pas. On pouvait le dire sous une autre forme. Tout est parti de ces conflits-là. Il y a une organisation de voix des minorités batois qui a été dans le travail en train de sensibiliser. Trois éléments importants que nous pouvons retenir, c'est la vulnérabilité de toi, c'est la pauvreté de toi et c'est la marginalisation de cette communauté. C'est ce qui a fait que la communauté toi se sente mal à l'aise à cause de cette marginalisation et décide de se prendre en charge et voilà là où nous sommes.
Est-ce qu'on a tenté d'apporter des solutions à ces caractéristiques que vous avez évoquées ici, la vulnérabilité et la marginalisation des toits?
Il y a eu un forum qui avait été organisé, je pense, en 2016, si la salle pouvait convenir avec moi. Ce forum qui avait amené de partout ailleurs, même les membres du gouvernement central, à l'époque du gouverneur Kitangala, et qui n'a pas donné le fruit que la population, toi, pouvait s'attendre. Ça n'a pas donné un résultat. Il n'y avait même pas une commission de suivi qui pouvait aller tout droit pour la cohabitation pacifique entre toi et Bantou. Donc, le résultat était nul et non avenu. Voilà pourquoi il y a eu encore résurgence de l'insécurité, puisque quand on parle de quelqu'un qui est vulnérable, de quelqu'un qui se sent marginalisé, il est pauvre, et vous êtes en majorité le Bantou. Puisque quand on parle dans ce forum-là, c'est un forum qui avait réuni à 99% ou à 90%, c'était le Bantou par rapport au toit. Et voilà le résultat, ça n'a pas donné du fruit.
Alors pourquoi lorsqu'on parle de l'insécurité au Tanganyika, on n'évoque que les toits? Alors qu'il n'y a pas que les toits, hein? Il y a aussi les Bantous, il y a aussi les différentes factions Maïmaï. Pourquoi on n'évoque que les toits?
Bon, vous savez, quelque chose qui a été à l'origine, c'est de ça qu'il s'agit. L'origine, avant qu'on ne parle de Raia Mutomboki, s'il y en a, si on peut parler aussi de Bishimbuke, Apanapale, avant qu'on ne parle de ces gens-là, le conflit qui a été manifeste dans le Tanganyika, c'était le conflit de Batwa et les Baluba, mais qui s'est transformé, qui a pris une dimension. Et on ne pouvait plus distinguer qui était Muluba, qui était Bangu Bangu, qui était Musonge, qui était Mouemba. Donc on a mêlé tout le monde. Donc tout celui qui a la morphologie Bantou, tout Bantou était devenu l'ennemi de Mutwa. Et voilà pourquoi le Mutwa a gagné le terrain, comme c'est quelqu'un qui vit dans un milieu naturel, selon Dieu, sa création. Le Mutwa, quand il vit en brousse, quand il est dans la savane, quand il est dans la forêt, il est dans son milieu naturel. Il est comme un poisson dans l'eau. Comme le poisson se sent à l'aise dans l'eau, c'est de cette même manière que le Mutwa se sent à l'aise quand il est en brousse. Et voilà, s'installant dans la brousse, ils ont commencé à commettre des bévis. Et lesquelles bévis n'ont pas permis au gouvernement, tant national que provincial, de pouvoir maîtriser la situation et remettre la pendule à l'heure.
Merci, Monsieur Jules Moulia. Vous êtes président de la Fédération des entreprises du Congo FEC Tanganyika. Comment vous, en tant qu'opérateur économique, vous comprenez la persistance de l'activisme des miliciens dans certaines parties de la province de Tanganyika?
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté. Je vais en parler d'un point de vue purement des opérateurs économiques, comment nous percevons la chose. Pour nous, nous constatons que chaque année, cet activisme du peuple toit, et je parlerai du peuple toit essentiellement, s'intensifie au mois de mai, à la récolte du maïs. Et je comprends ce qui se passe dans la brousse, enfin dans la savane. Ici, on n'a pas de forêt, c'est une savane. Notre savane n'est pas aussi généreuse, par exemple, que les forêts de l'Équateur et partout ailleurs, même du Maniema. On a une savane relativement pauvre. Ça veut dire que les produits non ligneux de la savane ne sont pas aussi abondants qu'ailleurs. Alors, devant cette précarité, le peuple toit, qui ne sait où aller en ce moment-là, quand il voit le champ des maïs des Bantous, d'ailleurs, qu'ils ont cultivé eux-mêmes, les Bantous utilisent la main-d'œuvre toit, généralement. Et qu'est-ce qu'ils font? Partout. Pour le moment, je ne sais pas si vous le savez, du côté de Maseba, c'est pourquoi ça m'intéresse, parce que les opérateurs économiques qui nous ramènent du maïs de Moba sont en ce moment loin de leur champ, parce que l'activisme a recommencé et il y a là une entente entre les toits et ceux qui sont supposés nous protéger, les soldats. Ils volent le maïs, le vendent aux soldats qui sont supposés nous protéger, et ces gens-là reviennent vendre le maïs à ceux qui l'ont produit, les Bantous qui sont tous à Kirungu et à Mobaport. Et ça, je reçois des nouvelles tous les jours. Donc il y a en fait un problème extrêmement complexe, ce problème de toit. Moi, je pense qu'il faut une approche pas seulement sécuritaire, mais aussi anthropologique, sociologique. On a affaire ici à des nomades et des gens qui vivent de la cueillette. Ils chassent les animaux et c'est comme ça. S'il y a du champignon, ils iront partout où il y a du champignon. Ils peuvent faire 100 km pour aller chercher du champignon. C'est ce qui fait des nomades. Alors, vous comprenez que ce problème là n'est pas si facile, en fait. On ne peut pas en parler de manière aussi légère. C'est un problème très sérieux et il n'ira que de mal en pire. Ça ne va pas changer. Au mois de janvier, j'en ai parlé aux autorités. Moi, j'ai dit, écoutez, on connaît, c'est un cycle, mais c'est un problème cyclique. Au mois d'avril, mai, vous allez voir, ça va recommencer. Et vous allez gérer, c'est prévoir.
Oui, mais les toits ne sont pas seulement dans les Tanganyika, ils sont partout à travers les pays, avec les mêmes modes de vie, qui ne permettent pas d'accéder à certains biens, comme vous l'avez dit ici. Mais pourquoi ailleurs, ils n'utilisent pas l'approche, ils ne réagissent pas comme les toits du Tanganyika?
La réponse est toute simple, en fait. Ailleurs, il y a la forêt. Ce sont des zones de forêt. Et la forêt est plus généreuse, en fait. Il y a encore, je viens de l'Équateur. À l'Équateur, il y a encore beaucoup de petits animaux sauvages. Mais le jour qu'il n'y aura plus rien dans ces forêts, là, je parlais justement de ces produits non ligneux de la forêt. Il n'y aura plus de champignons. Évidemment, ce problème-là viendra. Ils ne vont pas mourir de faim. Ils ne vont pas se laisser mourir de faim dans la forêt. Ils viendront vers les agglomérations des Bantous et ils viendront se servir, ça c'est sûr. Et je l'ai dit aux amis qui sont là que vous avez un problème, en fait, qui deviendra très sérieux dans les années à venir. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui a faim, vous ne l'arrêterez pas. Ceux qui vont se jeter dans Méditerranée, là, ce sont ces jeunes Africains là qui ont faim. Ils ont faim. On ne peut pas les arrêter. Les Européens peuvent mettre tous les bateaux et tout ça. Ça n'arrêtera pas ça. J'ai vu des Mbororo en province orientale qui sont venus du Sahel. Ils ont faim. Leurs vaches sont toutes maigres. L'homme est fait comme ça. Quand il n'y a pas à manger chez lui, l'homme va faire tout ce qu'il peut faire. Merci. Pour se nourrir et nourrir ses enfants.
Merci. Voilà. Nathan Mugisho, vous êtes président provincial du mouvement citoyen Parlema Debout Sans Tabou du Tanganyika. Vous également, votre lecture par rapport à la persistance de l'insécurité dans la province du Tanganyika.
Merci pour la question, M. Guy Maté. Je dois le dire que cette question nous pousse, nous particulièrement, à auditionner les bilans de gestion du gouvernement provincial, mais aussi du gouvernement central. Parce que la question sécuritaire, elle est primaire. C'est la question la plus importante de la vie de la population. Je vois mes co-débatteurs parler beaucoup plus des toits, comme si ce serait l'unique voie de l'insécurité dans la province du Tanganyika, mais je dois vous confirmer ici qu'en dehors des toits, nous avons les coupeurs des routes sur l'axe Bendera, sur l'axe Nyunzu, et même sur l'axe Lubumbashi, qui sont en train de tuer et piller les gens et faire tout ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons l'insécurité urbaine. L'insécurité dans la ville de Calémie, où il ne se passe pas des nuits sans entendre les crépitements des balles, les maisons cambriolées, les braquages et tout. Et tout ça, ça doit interpeller le gouvernement, parce que à un certain niveau, nous sentons la négligence du gouvernement provincial. Nous sentons l'insouciance du gouvernement provincial à l'égard même de la situation sécuritaire. Et vous allez comprendre, si les députés sont arrivés même à faire la question orale avec débat, il y avait des questions d'ordre sécuritaire qui pouvaient amener toujours la gouverneure à être déçue parce qu'elle n'aurait pas d'argument à présenter devant la population, à présenter devant tout le monde. Aujourd'hui, je vous donne le premier cas. Je vous donne le cas de Témboué. Témboué, ici, à quelques kilomètres, il n'y a pas 3-4 jours, il y a une milice qui est descendue dans le village et beaucoup de gens ont été blessés, tués, et il y a eu même des déplacements massifs de la population jusqu'aux côtés de Moulangé. Mais je vous confirme, M. Guy Maté et tous les auditeurs qui nous suivent, avec l'insouciance de ce gouvernement provincial, ces 200 personnes-là qui sont en déplacement n'ont pas encore eu même à manger. Aucune assistance jusqu'à ce niveau. Et voilà, l'insécurité, c'est comme si on dirait que c'est quelque chose entretenu parce que chaque fois que nous passons dans des périodes de crise politique, il y a toujours eu les éléments toi qui surgissent dans plusieurs territoires.
Et ça serait entretenu par qui et avec quel objectif?
Voilà, c'est la question que nous devons poser aux dirigeants, aux services de sécurité, aux services de renseignement, qui doivent nécessairement fouiner et comprendre, parce que lors de la déchéance des Zoé, on a vécu une période encore pareille. Lors de la déchéance de Kitangala, le départ de Kitangala, la turbulence qu'il y avait à l'Assemblée provinciale, on en avait vécu. Actuellement encore, ça revient dans la même forme. Et là, les services de sécurité doivent faire le travail pour fouiner et comprendre. En dehors de tout ça, voici à quel niveau je vais vous montrer que la part des responsabilités du gouvernement provincial est vraiment élevée dans ces débats de l'insécurité. Une part est pour amener les miliciens à quitter les rangs. Et les miliciens répondent, deux fois ils répondent favorablement, ils déposent des armes. Et quand ils déposent des armes, flèches et tout ça, le gouvernement devient incapable de mettre en place le mécanisme d'encadrement de ce genre-là. Ils se retrouvent sans aucun moyen de survie.
Et le DDRCS ne fonctionne pas ici.
Voilà, c'est maintenant que ce programme venait d'être installé dans la province. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de son bilan parce que le programme lui-même, il est encore à la première phase où on ne peut pas aujourd'hui dire que voilà, ils ont déjà fait ceci. Mais espérons, avec les alliés, avec les descentes qui sont en train de faire sur le terrain, espérons que ce programme peut nous aider à réduire l'insécurité. Donc, monsieur Guy Maté, je dois le dire, vraiment, nous sommes en face d'un gouvernement des négligents et des insouciants.
Merci, monsieur Ludovic Kasongo Kitengeya. Vous avez eu à travailler sur ce genre de questions pendant longtemps. Et lorsque Nathan Mugisho établit les liens entre les différentes crises au niveau des institutions provinciales et l'activisme des groupes armés, comment vous réagissez? Est-ce qu'on peut établir un lien?
Merci Guy Maté pour la question. Je pense, je suis expert en résolution des conflits. J'ai la matière avec moi. Je n'ai pas des sentiments anti-gouvernement provincial ou je n'ai pas des sentiments anti-gouvernement national. On pose un problème d'insécurité, il y a un conflit. C'est greffe aussi la criminalité. C'est quelque chose, capital, que l'on doit retenir. Aujourd'hui, il y a eu passage de Zoé Kabila. Zoé Kabila a trouvé le conflit dans le Tanganyika. Le conflit n'est pas venu avec le gouvernement Zoé. Aujourd'hui, nous avons Julie. Julie aussi a hérité de ces conflits qui a commencé quand elle-même n'avait même pas la vision de vouloir devenir gouverneur de province.
Peut-on établir les liens entre la crise des institutions et l'activisme de groupes armés?
En fait, je ne peux pas, il n'y a pas de lien entre la crise gouvernementale et l'activisme des groupes armés. Il n'y a que des parallélismes. Ça ne peut même pas se rencontrer. C'est quasiment difficile. S'il vous plaît, la criminalité est venue se greffer là où il y a déjà
un conflit.
En fait, c'est une conséquence.
C'est une conséquence. C'est-à-dire, les groupes armés, les bandits, les coupeurs de route, dont mon co-débatteur Nathan Mugisho venait de citer, ce sont des adjuvants. Les adjuvants veut dire quoi? Je suis ingénieur agronome. C'est-à-dire, ce sont, bon, je peux encore dire, ce sont des saprophytes. C'est-à-dire, il y a une plante mère qui vit d'elle-même et l'autre plante ne peut dépendre que de celle-ci. C'est ainsi qu'il y a eu ce genre de barbarie qui s'est greffé dans les conflits batois-bantous avec la résurgence des conflits et les groupes armés, même d'autres provinces, sont trouvés domicile dans le Tanganyika.
Merci, voilà, merci. On voudrait aussi écouter maintenant la population de Kalemi pour qu'elle donne son point de vue par rapport à ces sujets. Qui pose la première question? Allez-y.
Merci, Monsieur Guy Maté, de l'accord la parole. Puisque nous parlons de la situation socio-économique et sécuritaire en province, Maître Kali Kitambala, avocat au barreau du Tanganyika et secrétaire exécutif du Conseil provincial de la jeunesse du Tanganyika. Je disais, puisque nous parlons de la situation socio-économique en province et sécuritaire...
Non, d'abord sécuritaire.
Sécuritaire, voilà. La question que je voudrais poser à M. Nathan Mugisho, qui est trop hostile à l'endroit du gouvernement provincial, je voudrais savoir son avis.
Il va vous répondre.
Je voudrais savoir son avis d'abord de ce que lui pense à propos de la multiplicité des camps de réfugiés et aussi à propos de ceux qui disent que cette insécurité, les ONG pouvaient être derrière l'insécurité en instrumentalisant le peuple étois. Je pense que M. Nathan Mugisho n'oubliera pas le drame que nous avons vécu avec le contingent des Béninois, les casques bleus de la MONUSCO, du côté Kabeya Mukena, où la population de Nyunzu a accusé le contingent des Béninois avoir donné des armes aux Toa. Alors, nous voudrons savoir l'avis de M. Nathan Mugisho. Merci.
La deuxième question. Donnez la.
Merci pour la parole. Je suis Ghislain Mugalou, le coordonnateur provincial de la dynamique des politologues au Tanganyika. Et ma question s'adresse à M. Kitengeya. Est-ce vraiment devant ce public qui vous entend et devant vos co-débatteurs et devant la radio Capi, vous pouvez affirmer ou infirmer que les conflits Toa-Bantou a quitté les stades sociaux pour aller sur les terrains politiques? Est-ce que vous pouvez dire non parce que vous avez semblé et ne pas être d'accord avec les implications ou soit de la résurgence de ces conflits à chaque fois qu'il y a un problème politique au niveau de la province du Tanganyika?
Une troisième question. L'aspect sécuritaire. Hein?
Oui, merci la parole. Je suis M. Jacob Amani. Je me présente...
Allez directement.
Oui, je suis un agent du PDDRCS.
Ok.
Avant ma question, une petite contribution.
Rapidement, s'il vous plaît.
Oui, oui.
Rapidement.
Oui, merci. Je voulais rappeler ici que le PDRCS existe en province et il y a des avancées quant à ça parce qu'il y a déjà des éléments qui se rendent après le dialogue.
Les indicateurs pour attester qu'il y a effectivement des avancées.
Merci. Il y a déjà une reddition des deux groupes armés au niveau de Moulangui, qui sont une centaine dans un centre de transition,
okay,
qui attendent le processus DDR.
Voilà. Est-ce que vous avez une question à poser?
Oui, oui. Ma question s'adresse directement aux représentants de la FEC ici présents.
Mm-hmm.
On a parlé de l'insécurité, mais moi je vais plus m'axer sur le banditisme urbain face aux opérateurs économiques.
Mm-hmm.
On a compris que la police de proximité a été transformée en une entreprise de gardiennage. Pourquoi? Avec l'avènement de CIG chinois ici investisseurs, les policiers qui devaient garder la population sont devenus gardes de ces investisseurs, ce qui amène et favorise au sous-effectif de ces policiers. Quel est l'avis de la FEC sur cet aspect qui est en train de favoriser l'insécurité en milieu urbain? Merci.
Ok, merci beaucoup. Merci. La question de M. Kitambala à Nathan Mugisho. Oui, multiplicité des camps, des réfugiés, des ONG serrées derrière cette situation.
Voilà, je salue Maître Kali pour la question. Il connaît lui-même combien de fois nous avons lutté contre la multiplicité des camps de déplacés, parce qu'il n'y a pas des réfugiés, il n'y a que des déplacés internes que nous avons connus. Il a évoqué même la situation de la complicité des contingents béninois que nous avions dénoncé dans une des émissions Dialogue entre Congolais l'année passée. C'était avec Elin Kouté, avec la MONUSCO, et autour de ça, nous avions même demandé le départ de la MONUSCO. Mais dire que la multiplicité des camps de déplacés, ça relève pas seulement des ONG, s'il faut les dire de manière trop claire. Parce que nous avons tout un ministère au niveau du gouvernement provincial qui est chargé de ces questions-là. Nous avons le ministère des Affaires sociales, nous avons le ministère des Affaires humanitaires et nous avons le ministère des Plans. Auprès du gouvernement provincial, ce sont des experts qui devaient guider le gouvernement. D'après tout, les ONG n'ont pas un bilan à présenter à la population. C'est le gouvernement qui présente les bilans. Et les ONG se présentent comme partenaires au gouvernement et non pas partenaires à la population. Ta question me renvoie toujours à démontrer noir sur blanc que nous avons un gouvernement incapable, insouciant, parce qu'il laisse la latitude aux ONG de faire tout ce qu'elles peuvent faire, de multiplier les camps de déplacés, et tu vas voir que les agents de l'État, surtout des divisions des affaires humanitaires, des affaires sociales, sont devenus des agents des camps de déplacés. Et c'est de là qu'ils sont en train de vivre. Donc, c'est une action encouragée par le gouvernement provincial qui devait la mettre à côté.
Malheureusement, on n'a pas les ONG ici pour réagir à ces allégations. Alors, Monsieur Kitengea, il y a aussi une question pour vous. C'est Ghislain Mougalou qui a posé la question. Est-ce que le conflit Toi-Bantou a quitté le terrain social vers le terrain politique?
Je dirais non. Le conflit Toi-Bantou n'a pas quitté sa phase de conflit social en conflit politique. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'intérieur ici. Je suis allé sensibiliser les seigneurs de guerre, je ne saurais pas citer leur nom à ces micros. Je fais le groupement Kasanganyemba. J'étais dans le groupement Kinsunkulu, là où aujourd'hui c'est le bastion le plus redoutable, même de la province. J'ai été jusqu'à quelques 15 kilomètres de Kabeke en territoire de Manon. Depuis 2019 jusqu'à ces jours, je suis dans la résolution des conflits, dans la pacification, dans la conscientisation des groupes armés Toi-Bantou.
Et donc le conflit Toi-Bantou n'a pas évolué vers les terrains politiques, non?
Le conflit Toi-Bantou n'a pas évolué vers les terrains politiques. Pourquoi? Parce que si vous allez rencontrer aujourd'hui le seigneur de guerre Ambrousse, nul ne va vous dire qu'il est partisan d'un parti politique ou il est derrière une autorité politique en province qui est en train de les manipuler.
Merci. Monsieur Jules Moulia, président de la FEC Tanganyika, il y a une question qui vous est adressée aussi. Hein. Les opérateurs économiques utilisent les policiers, ce qui fait que ceux-ci n'arrivent plus, n'est-ce pas, à sécuriser la population. Et du coup, il y a cette insécurité urbaine.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Guy Maté. D'abord, le problème de l'insécurité affecte tout le monde, pas seulement les opérateurs économiques. Il n'est pas personnel, en fait, c'est un problème tout à fait impersonnel. Tout le monde en souffre. Alors, qu'est-ce qui se passe? La police est là pour nous sécuriser et nous-mêmes et nos biens. Si un opérateur économique, quelqu'un qui vient investir au Congo, décide de s'adresser à la police et demande son assistance pour être sécurisé, ce n'est pas un problème en fait. Alors, ce qui devrait nous inquiéter, devrait nous préoccuper, c'est de demander à l'autorité d'augmenter le nombre des effectifs. C'est ça la solution. La solution, c'est d'augmenter le nombre des effectifs de policiers afin que tout le monde soit sécurisé. Pas seulement une certaine catégorie de la population, mais que tout le monde soit sécurisé. Moi, je pense que c'est plutôt une question que l'autorité devrait répondre en augmentant le nombre des effectifs des policiers, pas seulement pour une certaine, mais pour tout le monde.
Merci. Ça, merci. Nous allons passer à, au deuxième aspect.
Je peux...
Oui, monsieur Christian, oui. Si
vous merci avez beaucoup. Je voudrais placer un mot par rapport aux allégations que notre ami a avancées. Il a traité de l'insouciance du gouvernement provincial par rapport à l'insécurité. Mais moi, je pense qu'il faut faire bien la lecture entre les prérogatives reconnues par le gouvernement provincial et les prérogatives du gouvernement central en matière de sécurité. Vous savez que en matière de sécurité, ce sont des prérogatives reconnues exclusivement au gouvernement central. Et le gouvernement provincial ne peut qu'intervenir si les services techniques qui représentent le gouvernement central en province en font une demande. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a des postes d'insécurité quelque part, ça relève du gouvernement central. Et le gouvernement provincial sur place, qui représente le gouvernement provincial, n'a pas la même marge de manœuvre que le gouvernement provincial. Donc, lorsqu'il intervient au service de sécurité, par exemple la police, il ne peut intervenir que sur des matières que le gouvernement ça reconnaît au gouvernement provincial d'intervenir. Merci. Le gouvernement provincial ne peut pas acheter des armes, mais le gouvernement provincial ne peut pas acheter des munitions. Il peut aider les services techniques en carburant, en mobilité. Or, c'est ce que le gouvernement provincial fait depuis le district. J'ai accompagné le district de Tanganyika depuis l'époque de Kioni, arrivé à Ilungampafu, où, quand le conflit a commencé, c'est avec Ilungampafu. Nous nous sommes attelés ici à aller à Lubumbashi, voir même le gouverneur Moïse pour nous appuyer. Avec Ilungampafu, on a doté, on a approvisionné les services techniques, c'est-à-dire police, FRDC, en carburant, pour faire ce qu'ils pouvaient faire à la mesure du possible de l'entité que les dirigeants animaient ici. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement provincial est insouciant par rapport à l'insécurité. En tout cas, je m'inscris en faux à voir toutes les interventions que les gouverneurs font depuis Kitangala, Zoé, Moni, tous ceux qui les ont intervenus pour essayer de calmer la situation à la mesure du possible. Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas de leur ressort, c'est le ressort du gouvernement central. Et ne peuvent qu'appuyer.
Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la deuxième dimension, le deuxième aspect de l'émission, c'est l'aspect socio-économique de la province. Hein. Nous l'avons évoqué dans les sommaires de l'émission. En plus d'être une province à vocation agricole, Tanganyika est aussi connue pour ses ressources du sous-sol. On y a découvert l'un des plus grands gisements au monde du lithium. Il y a du cobalt, il y a de l'or, du coltan, de la cassiterite, cuivre, zinc, le fer. Monsieur Christian Djangambi Abongo, vous êtes chef de division provinciale du budget ici au Tanganyika. Comment se porte la province du Tanganyika sur le plan socio-économique?
Merci Guy Maté. En tout cas, la province se porte bien, sauf que il y a une interprétation un peu erronée des indicateurs économiques. Si vous faites la lecture à partir du budget de la province, vous verrez que la province de Tanganyika se porte bien par rapport à ce qu'il doit faire. Si, dans les ressources locales, le gouvernement provincial arrive l'année 2021 à mobiliser 97% des recettes, moi je pense que c'est une très bonne chose. En 2022, il a réalisé 87% des ressources locales. Moi, je crois que la province se porte bien, mais il faut faire une bonne lecture pour comprendre et pour appréhender la réalité de notre province. Vous savez que notre province n'a aucune industrie. Ça, il faut savoir ça. Et tous les gouvernements qui se sont succédés se sont mobilisés pour recouvrer les recettes, tant peu que ça, afin de répondre aux exigences et à tout ce qu'ils ont promis à la population. Moi, je crois que jusque-là, la province se porte bien. N'oublie pas l'implication de la situation économique mondiale de l'Ukraine qui affecte le monde. Ce n'est pas seulement Kalemie.
L'Ukraine, c'est depuis une année.
Oui, hein. La guerre qui est là, vous avez senti, au niveau
national. Les problèmes se posent.
Effectivement, les problèmes se posent au niveau national. Ce n'est pas seulement.
Voilà. Est-ce qu'il y a une politique au niveau du gouvernement provincial capable de transformer toutes ces opportunités, tous ces atouts en richesse pour le bien-être de la population de cette province.
Effectivement. Si vous jetez un coup d'œil au budget, vous allez voir les initiatives, les investissements qui ont été prévus pour la transformation des biens ici au Tanganyika. Vous allez voir que si on laisse un peu le temps au gouvernement provincial de fonctionner correctement, vous allez vivre tous ces merveilles-là au niveau du Tanganyika.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Jules Moulia. Vous êtes président de la Fédération des entreprises du Congo FEC Tanganyika. Qu'est-ce que vous pensez de la situation socio-économique de la province de Tanganyika?
Okay, merci beaucoup. Je vais donner un petit peu, je vais brosser le contexte dans lequel nous sommes. On part de 2015 avec les nouvelles provinces et tout. On a vu atterrir ici, on a vu débarquer ici des institutions provinciales pléthoriques. Que la province qui n'a aucune ressource, les ressources n'ont pas changé. Le Tanganyika, il n'y a pas une seule nouvelle entreprise. Les Chinois peut-être sont les tout premiers qui est venu au Tanganyika, qui a ouvert ses portes pour créer de la richesse. Ça veut dire que les taxes, tout ce que les gouvernements, donc les institutions prélèvent, c'est directement de la population qui est là, en fait, qui a des gros problèmes. Nous sommes une province post-conflit. On a eu la guerre jusqu'il y a 20 ans à peu près, qui peine à se remettre. On a une infrastructure économique très, très obsolète. Elle est très vieille. Notre voie ferrée, nous sommes liés ici à Ilebo, par exemple, mais c'est impossible aujourd'hui d'aller de Kalemi jusqu'à Ilebo. C'est impossible, presque impossible d'aller de Kalemi jusqu'à Kindu et même en province orientale. Pourtant, nous avons un lien par voie ferrée jusqu'en province orientale. Alors, c'est ça, en fait, historiquement, Kalemi était comme un hub. Donc, Kalemi vivait de son chemin de fer et de son port. Alors, aujourd'hui, nous avons un port complètement obsolète qui ne supporte plus le poids des importations. On fait encore de la manutention manuellement, comme il y a un siècle. Le port de Moba est complètement parti, détruit complètement par les eaux, et rien n'est fait. Alors, vous ne pouvez pas imaginer Kalemi se relever sans le rail et sans ses ports. C'est ça les deux grands atouts de Kalemi. Et si rien ne fait, on peut amener toutes les institutions du monde, on peut décentraliser comme vous voulez. Ça ne va pas changer notre sort socio-économique. Nous allons rester pauvres, on aura des grosses charges parce qu'on devra nourrir l'Assemblée provinciale, on devra nourrir le gouvernement et tous ses agents pléthoriques, on devra nourrir tout le monde. Mais c'est la même population, sans emploi.
Combien... Donc vous pensez qu'il faut élargir l'assiette fiscale?
Élargir à quoi? Il n'y a rien. L'élargir à quoi?
Notamment en attirant les investisseurs.
Mais bien sûr, franchement, les investisseurs, parlons de manière très très générale au Congo. Combien de grands investisseurs sont venus s'installer au Congo?
Et pourquoi ils ne viennent
surtout
pas alors
dans
que
le milieu rural.
Pourquoi vous en tant qu'EFEC, pourquoi les investisseurs n'ont pas tendance à venir, n'est-ce pas, investir là où il y a des potentialités, là où il y a beaucoup d'atouts?
Évidemment.
Nous avons parlé du lithium, nous avons parlé du manganèse, nous avons parlé il y a tout ici.
Oui.
Mais pourquoi ils ne viennent pas? Est-ce qu'il y a un déficit de politique pour essayer de captiver, d'attirer ces investisseurs?
Non, c'est un problème général. Il y a même des provinces plus riches que le Tanganyika qui sont même plus pauvres que le Tanganyika. Donc c'est même pas ça. Il y a des diamants et tout, et plus pauvres que le Tanganyika.
On peut l'expliquer par quoi?
Non, c'est tout simplement la gouvernance. Ça, c'est un problème qui nous affecte tous, que ce soit à Kinshasa, n'importe où, même au Katanga, il y a un problème très grave, très sérieux de gouvernance. Mmh. Et ce qui fait que nous piétinons, comme nous le faisons, on ne décolle pas, qu'on ne se fasse pas d'illusions. Ce n'est pas un gros investisseur. Combien sont venus défiler à Kinshasa? On a vu un Dangote venir ici, vous l'avez vu, non? Dangote. Il était ici, mais il n'a pas investi un seul rond. Il a regardé, il a dit que tiens, je pars. Mais c'est ça en fait, c'est ça ce n'est pas seulement le Tanganyika, c'est partout. Nous vivons ce problème-là.
Donc il faut assainir le climat des affaires.
Assainir le climat des affaires, c'est ça notre problème numéro un. La FED l'a toujours chanté.
Merci. Nathan Mugisho, président provincial du mouvement citoyen Parlement debout sans tabou du Tanganyika. Et vous, en tant que mouvement citoyen, comment vous percevez la situation socio-économique de la province?
Monsieur Guy Maté, les tableaux à présenter, il est trop noir. Il est chaotique du point de vue socio-économique dans la province du Tanganyika. Nous ne pouvons pas être complaisants à l'égard de ceux qui nous dirigent pour ne pas dire la vérité sur la souffrance que la population est en train de connaître. Aujourd'hui, nous connaissons une crise alimentaire dans le Tanganyika. Jadis grenier agricole pour nourrir d'autres provinces, mais aujourd'hui, le bassin de maïs
que l'on pouvait acheter à 18 000 francs, demandait à la population à Kalemie, ce bassin est acheté à combien? Et quels sont les facteurs qui définissent la hausse des prix des denrées alimentaires dans la province du Tanganyika? On en a trois. Le premier facteur, c'est l'insécurité dans le milieu rural. Partout là où les gens peuvent cultiver, à coup sûr, il y aura toujours la milice qui va faire des débandades et les champs seront dévastés et tout sera saccagé. À part l'insécurité, nous avons aussi le facteur infrastructure. Vous avez le port de Moba qui doit amener le maïs ici, mais allez-y voir l'eau est à quel niveau. Pour transporter un sac de maïs jusqu'à arriver là où les bateaux est accosté, ça pose problème. C'est un coût dur qui doit être ajouté sur le coût d'achat et que le consommateur final finira par payer à très cher le maïs. À part cela, il y a trop de taxes, trop de taxes. Trop de taxes. L'État a exagéré à ce niveau. L'État a dépassé la limite même de son budget. Donc même les taxes qui ne sont pas prévues. Trop. Je vous assure, vous allez au port avec un sac, vous avez plus de 10 services qui sont debout. Et chaque service vous demande à payer. Et tous ces coûts-là reviennent sur la population. Et tout ça, sous les yeux fermés, du gouvernement provincial qui laisse cautionner. Cela ne veut pas dire que tous ces jeunes que vous voyez, tous ces mouvements citoyens n'ont pas dénoncé. On en a dénoncé, on en a fait même la prison. Mais les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne veulent pas comprendre.
Voilà.
Je suis encore là, monsieur Kimati. Il y a des éléments que nous devons donner de manière claire. Ici, le président de la FEC ne vous a pas dit à quel niveau nous devons situer le gouvernement comme responsable, surtout le gouvernement provincial, comme responsable de la crise socio-économique dont la population est victime aujourd'hui. La FEC paye, les commerçants payent une taxe appelée conventionnelle à la reconstruction sur les ciments. Depuis des années et des années. Et même pour cette année, regardez le budget, cette taxe est là. Elle fait entrer de l'argent. Cette reconstruction a été faite où? Où est-ce que le gouvernement a investi, a réalisé même un ouvrage en infrastructure par rapport à tout ça? Je quitte ce stade-là parce que je vois que vous voulez...
On n'a pas assez de temps. Vous êtes jeune, hein? Certainement que vous êtes préoccupé aussi par l'emploi des jeunes. Est-ce que dans la province, il y a une politique d'emploi des jeunes?
Écoutez, c'est là où il y a la crise sociale. Et je vais la déterminer. Pour chaque gouverneur qui vient comme celui qui est déchu, aujourd'hui, lorsqu'il faut faire l'emploi des jeunes, ils sont là d'accord avec moi, on ne peut faire recours qu'à des critères. Soit vous êtes de son parti politique, soit vous êtes de sa famille ou sa communauté. Et à ce niveau-là, vous allez comprendre, si vous circulez dans les bureaux, demandez à ceux qui ont travaillé avec Kitangala, tous sont partis. Demandez à ceux qui ont travaillé avec Zoé, sont partis. Et comme la gouverneure est déchue sûrement, il y aura des avions qui vont amener les uns et les autres de là qui sont venus. Les vrais jeunes restent là. Aucune politique pour arriver à engager tous ces jeunes. Je vais vous révéler quelque chose, M. Gumaté et tous les auditeurs. Très importante. Les dirigeants sont venus avec la politique de faire souffrir la population. Aujourd'hui, le petit commerce ne va plus bien dans la ville de Kalemie et même dans les environs. Parce qu'on avait des petits ports qui servaient seulement des transports, des accostages, des bottes qui amenaient les produits vivriers. Tout le monde sait que les Tanganyika actuellement, sur le plan agriculture, nous sommes nuls. Nous dépendons de la Tanzanie, nous dépendons du Burundi. Ce sont des pays qui nous amènent à manger. Mais tous les petits ports, pour des raisons politiques, verbalement, ils ont déployé les militaires, les policiers, ils ont fermé tous les petits ports. Et aujourd'hui, les petits commerces en pâtissent à Kalemie.
Merci, monsieur Ludovic Kasongo Kitengeya. Vous êtes coordinateur provincial de la Barza intercommunautaire du Tanganyika. Mais est-ce que la situation socio-économique du Tanganyika n'est-elle pas le reflet de la situation de l'économie nationale du pays, une économie extravertie?
Merci Guy Maté pour la question. Je pense, avant d'attaquer le problème socio-économique, il y a un petit mot que tout le monde veut échapper, entre guillemets, paix. Nous sommes en train de parler d'une manière volatile, mais nous laissons l'essentiel.
C'est quoi l'essentiel?
L'essentiel, c'est la paix.
Puisque je ne voudrais pas parler de lithium, puisque c'est de l'argent que la population ne va pas profiter directement. Mais je voudrais parler de petit commerce. Si le petit mot la paix n'est pas pris en compte, même pas par mes co-débatteurs, c'est malheureux.
Le monsieur de la FEC a évoqué la nécessité d'assainir le climat des affaires. Et parmi les facteurs qui sont pris en compte quand on assainit le climat des affaires, il y a cette question de sécurité aussi. Il faut mettre fin à l'insécurité.
Merci. Alors, je continue, je dis, parlant de la paix, si cette paix-là est acceptée et tout le monde, avec les potentialités que chacun de nous dispose, au service de tous, à la recherche de la paix, le problème socio-économique sera résolu ou va se résoudre de soi-même. Comment? Je pense, pour les petits commerces, pour que quelqu'un quitte Kalemi vers Bendera, vers Misisi, vers Kasanganyemba, vers Kinsunkulu et vers Nyunzu et partout ailleurs, d'abord se pose le problème de l'insécurité. Il faut qu'il y ait la paix. Ceux-là qui font les petits commerces, ils se sont sentis pillés à maintes reprises. Je pense l'éco-débatteur l'a insinué à maintes reprises quand il passe dans des réseaux sociaux, il en parle. Mais les petits commerces, les agents-là, les serviteurs de petits peuples, le petit peuple qui n'a pas les moyens de s'approvisionner en quantité industrielle, de s'acheter un sac de riz, de s'acheter un sac de maïs, de s'acheter un bidon d'huile de palme, il vit quotidiennement avec l'achat d'un gobelet ou de deux gobelets de l'huile. Mais il va parvenir comment? À 40 km, d'autant plus qu'il y a de l'insécurité en cours de route. Automatiquement, il y a un problème dans la province. D'où, pour parvenir à faire, à réaliser des choses, les visions, même politiques, ici dans la salle, la jeunesse que je salue, je vous aime beaucoup, je suis votre doyen, vous me connaissez, je ne cesse de vous former, de vous informer, de faire le transfert des dépôts que nous avons. Nous n'allons pas vous laisser dans la rue. Nous devons avoir un langage responsable, surtout quand nous parlons de choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est lesquelles la situation socio-économique. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas résoudre ce problème-là si le petit mot la paix n'est pas pris en compte.
Monsieur Ludovic, est-ce qu'il faut être fataliste? On sait que dans certaines sociétés, là où il s'est posé des problèmes, des conflits armés, et les gens ont exploité cette opportunité en opportunité d'affaires. Hein. Il y a des pays à l'époque, en fait, l'histoire nous enseigne que à l'époque, lorsqu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale, mais l'économie allemande était reluisante, alors que c'était pendant la guerre. Nous avons la ville de Goma aujourd'hui, qui vit depuis plusieurs années dans une situation de guerre. Mais quand vous arrivez à Goma, c'est l'une des villes qui se développe. Mais il y a la guerre là-bas. Et est-ce qu'il ne faut pas exploiter cette situation de guerre comme une opportunité afin de relever l'économie de la province?
Merci Guy Maté pour la question et la préoccupation. Si on peut prendre l'exemple de Goma, je pense la comparaison n'est pas toujours raison. C'est un problème de vision politique. Goma a eu des acteurs politiques qui avaient aussi une vision que nous ne pouvons pas parler à leur place. C'est peut-être dans l'échange des expériences des gouvernements provinciaux, on pouvait faire ces échanges-là. Ce n'est pas dans cette tribune.
On peut le faire.
Oui, ils peuvent le faire.
Il n'est pas trop tard.
Ils peuvent le faire, ce n'est pas tard. Ils peuvent le faire. Arriver à Goma, poser la question à l'ancien gouverneur qui
est ministre de l'Industrie actuellement, Julien Paluku.
Qui est ministre de l'Industrie aujourd'hui, Julien Paluku, qui a dirigé la province
pendant
12 ans. Lui poser des questions, comment est-il parvenu à faire pareille réalisation
dans une situation de guerre.
Dans une situation de guerre,
merci.
Oui.
Vous êtes là? Voilà, posez vos questions.
Monsieur Guimaté, je voudrais placer un mot sur le tas, parce que
monsieur,
il faut que la salle soit édifiée.
S'il vous plaît, vous allez poser, mais on écoute quand même monsieur Christian, qui est le représentant du gouvernement provincial.
Attendez, je voudrais placer un mot sur le tas.
On y va rapidement. Parce
oui, c'est très très important.
Oui.
Mes chers amis, vous devrez comprendre que lorsque nos amis parlent de la multiplicité des taxes, il ne faut pas surcharger la province sur cet aspect-là. Parce que vous savez bien que la LOFUP dit ceci, les budgets des entités sont distincts. Cela veut dire quoi? Chaque entité a son budget. Le budget de la province n'a rien à voir avec le budget de la ville, et le budget de la ville n'a rien à voir avec le budget des communes et des secteurs. Et le gouverneur n'a aucune injonction à donner sur une décision budgétaire de la ville. Cela revient à l'organe délibérant de chaque entité. Vous êtes ici dans la province du Tanganyika, chef-lieu. Vous êtes à Kalemie, chef de la ville du Tanganyika. Vous avez combien de budgets qui se superposent? Vous avez l'édit budgétaire qui a ses recettes ici à Kalemie. Vous avez la décision budgétaire de la ville de Kalemie qui trouve son champ d'action ici dans la ville de Kalemie. Vous avez aussi la décision de la commune, la décision budgétaire qui trouve son champ d'action ici dans la même ville. Donc chaque entité a ses taxes bien spécifiées par le législateur. Et ce n'est pas le gouverneur de province qui distribue les taxes, c'est l'Assemblée nationale. Le gouvernement provincial n'a aucune injonction à donner.
Donc
à
vous
la
dédouanez le gouvernement provincial par rapport à la mairie.
Par rapport à la mairie, par rapport aux taxes.
Mais est-ce ça, que vous, ça, vous, vous-même, vous êtes financier, vous savez que trop de taxes tue la taxe?
Ça, c'est un principe. C'est un principe, mais il faut avoir l'autorité.
C'est ce qui est constaté dans la province ici.
Ce qui est constaté, ça, ce sont les opérateurs économiques qui doivent faire leur plaidoirie à l'organe attitré.
Ok, merci.
L'organe attitré, ce n'est pas le gouvernement central. L'organe attitré, c'est le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale qui propose le taxe par entité.
Merci, on a compris. Merci.
Ça n'a rien à voir.
Votre question?
Merci, Guimaté, pour le micro. Moi, c'est M. Sapo Asapo Eli. Je suis chef de division provinciale de la communication et médias Tanganyika. J'ai une question à poser par rapport à la situation socio-économique. Mais avant de la poser, Guimaté, vous avez exposé les Tanganyika par rapport à ses richesses. Je pense que même les intervenants, vos invités, n'ont pas parlé du lac. La province porte le nom d'un grand lac, Tanganyika ici. Le lac Tanganyika a beaucoup de poissons. Quand je vais souvent à Kinshasa, la première question que les Kinois me posent, « Ah, boni Mikebuka, boni Ndakala ». Voyons aussi les lacs qui peuvent nous aider à atteindre un grand développement. Voici ma question.
Et vous l'adressez à qui?
À tous les co-débatteurs. Qu'est-ce qui a fait que, jusqu'ici, des années, les Tanganyika ne soient exploités seulement à la première couche de poissons? Monsieur de la FEC peut aussi nous dire pourquoi n'est pas chercher des investisseurs nationaux ou internationaux pour une exploitation industrielle. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, il y a des étudiants ici?
Il y a des étudiants?
Oui.
Des questions à poser au chef de division.
Vous appelez comment?
Norris Mlongoy, je suis habitant d'Académie. Monsieur le chef de division nous parle ici de la mobilisation des recettes qui est allée jusqu'à 97%.
En 2021.
Ah, les ressources locales. À quoi a servi ces... Merci.
Et à quoi ont servi ces recettes et pour quels projets?
Oui. Merci beaucoup, chers habitants de Kalemie. Quand je parle des ressources locales, ce n'est pas à comparer avec le budget général de la province. Et les ressources locales n'interviennent qu'à moins de 20% dans le budget dans le budget de la province.
Non, la population,
oui,
si.
Je vais y arriver.
Et pour quel projet?
Si je vais tout droit au but, j'ai le projet que nous avons réalisé, parce que vous savez que c'est avec ces ressources locales que le gouvernement provincial fonctionne. Et il n'intervient qu'à, si nous arrondissons, à 20% du budget national.
Et donc, du budget ça a été canalisé général. Dans les fonctionnements du gouvernement provincial.
Oui, oui. Nous avons mené, en fait, le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a mené plusieurs actions avec cette, avec la mobilisation. Nous en avons ici, non. Je peux vous citer tout.
Ok, allez-y rapidement.
Nous avons la poursuite de la lutte contre la criminalité.
Avec quel impact sur le terrain?
Avec les ressources locales.
Non, avec quel impact?
Mais à quel impact? Mais vous savez quand vous vous réveillez le matin, vous savez combien est-ce qu'on a dépensé pour que vous réveillez le matin? Vous savez, les carburants, ça coûte combien? Et s'il faut mettre les carburants chaque jour dans les jupes de la police, en fait. Et puis, ne voyez pas seulement Kalemi.
Et le deuxième projet.
La province amis, ne dirige pas
amis,
seulement la ville de Kalemi.
Amis,
la province
on va parler.
L'intervention, c'est dans toute la province. Ce n'est pas seulement à Kalemi, mes chers amis. Il ne faut pas croire que lorsqu'on intervient, on intervient seulement
le à deuxième
Kalemi.
Projet.
Renforcement et appui aux unités de la police nationale en moyens de communication.
Okay.
Le gouvernement provincial a payé des tourayas. Monsieur, je vous dis la vérité. Allez poser. Pardon. On est quand même responsable. Attendez.
Okay.
Attendez. Quand le gouverneur de province achète un téléphone, il doit passer à la télévision pour montrer à la population. Mais écoutez.
Merci.
Le principe de la redéfabilité. Non, ne parlez pas avec les émotions. Ne parlez pas avec des émotions. Nous sommes un État organisé. Le principe de redevabilité suit un certain nombre de principes.
Okay,
quand est-ce qu'on fait la redevabilité?
On a compris, monsieur Christian, on a compris.
Quand est-ce qu'on fait la redevabilité?
On a compris, et donc on retient ici que les recettes qui ont été collectées ont servi ont servi à satisfaire les besoins du gouvernement provincial.
Nous avons beaucoup de choses.
Alors,
mais il y a le fonctionnement de la province.
Okay,
on a payé les agents.
On a compris, merci
ça,
beaucoup.
Ça, vous le savez.
Alors, monsieur...
Nous devons réhabiliter les routes, ça, vous le savez. La route du port a été réhabilitée.
Chers amis. Chers amis.
La route du port a été réhabilitée. Mais la route du port est où?
Ok, on a compris.
C'est malheureux.
Monsieur Christian, on a compris. On passe à Monsieur Ludovic. Chers amis, calmez-vous, on évolue. S'il vous plaît, on ne saura pas se comprendre si tout le monde parle au même moment. Monsieur Ludovic Kitengeya, on vous a posé une question. Le décret des responsabilités du gouvernement provincial dans le rétablissement de la paix. Je pense que c'est ça la question.
Merci Guy Maté pour la question. La responsabilité du gouvernement à la recherche de la paix. La responsabilité du gouvernement provincial, c'est le maintien de la paix. Ils doivent absolument maintenir la paix, sécuriser la population. Mais il y a des étapes. Vous savez, je reviens toujours à ces petits mots, la paix. Aujourd'hui, si vous parcourez, vous suivez le monde entier, le tableau est sombre. Malgré qu'il y a le pays le plus développé, ou en voie de développement, qui réussissent à tenir le coût socio-économique de leur population. Mais vous verrez que beaucoup de budgets, et les budgets colossaux, c'est en termes d'espionnage, c'est en termes de formation militaire, c'est en termes d'achat d'équipements militaires, c'est en termes de renseignements dans le monde entier, et qu'on sort. Mais cet élément-là, ça échappe. On ne trouve pas les gens capables d'y mettre beaucoup de moyens à la recherche de la paix.
Ok, merci.
On n'en trouve pas.
Donc on a compris, le gouvernement a les devoirs et l'obligation de ramener la paix.
Merci.
Merci beaucoup, monsieur Jules Moulia. Il y a une question qui vous a été adressée, n'est-ce pas?
La question du lac Tanganyika est une question très très complexe. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport PRODAP qui a passé presque 5 ans ici. À faire des recherches autour du lac et tout ça. Et il y a un problème, en fait. Cette histoire de couches, les 7 couches, en fait, c'est un mythe. En fait, le lac Tanganyika, le poisson est en train de s'épuiser. C'est ça la réalité.
Alors, il n'est pas exploité ?
Non. Il a été exploité pendant des années, des siècles. Il y avait des Arabes ici, en fait, qui tenaient l'économie et les Grecs, qui l'ont tenu pendant des années. J'en ai vu à Kinshasa. Et quand ils sont partis, ils avaient compris, en fait, que la ressource halieutique était finie. Et ils sont partis. Alors, lisez les études qui ont été faites. Il y a aussi le changement climatique. Le lac est en train de se réchauffer. Et les poissons les plus fréquemment pêchés, les Mikebuka et les Ndakala, flottent en fait en au-dessus. C'est la toute première couche. Mais, et puis en dessous, il n'y a pas d'oxygène en fait. Après les 100 mètres, il n'y a plus assez d'oxygène. Les poissons ne peuvent plus vivre là-bas. C'est fini. Et les 7 couches, ça n'existe pas. Je suis désolé, en fait, toutes les études que j'ai lues, il y a des Chinois qui sont venus faire une tentative ici à 5 ans. Ils ont arrêté au bout de 3 mois. Ils ne pêchaient même pas assez de poissons pour acheter le carburant pour aller le lendemain à la pêche. Et ils ont arrêté. C'était une pêche semi-industrielle. Ils ont fait des sondages dans le lac. Ils ont envoyé des sondes. Ils ont vite compris que, en fait, le lac est épuisé. Et c'est pas seulement le lac.
Et donc, dire que le lac Tanganyika est l'un des plus poissonneux au monde.
Il fut peut-être, il n'est plus.
Merci.
C'est la même histoire de nos fleuves. Allez, le fleuve Congo, allez, Lubangi, Itimbiri, allez à Kinshasa, Maluku, il n'y a plus de poissons.
Merci, donc c'est la fin de l'émission. Merci, chers amis, d'avoir participé à cette émission. On est à la fin, malheureusement. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission Dialogue entre Congolais à Kalemie sur la situation sécuritaire et socio-économique dans cette province avec la population de Kalemie. Est-ce que la population de Kalemie est là? Voilà. Merci aussi à vous, la population. Merci aussi au bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Merci aussi à Radio Kapi Kalemi, Paulin Munanga, et à Radio Kapi Kinshasa, Kevin Kouté, Diedoné Nyangasa, Jonathan Fouanani, à la présentation Guy Maté. Merci encore une fois de plus et bonne suite de programmes sur Radio Kapi. Merci.